Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Les carnets du soir vous proposent de me suivre comme pèlerin dans différents lieux à Rome, la ville éternelle. Je vous livre différentes pensées et réflexions. Suivez-moi dans cette réalité.
Et si mon souvenir est bon, Saint-Charles Borromée, c'est un homme qui est mort relativement jeune, avant 50 ans. Je pense qu'il est mort autour de 48 ans, ou 46. Je viens de voir mon collègue qui vient de me montrer un autre chiffre que je vous donne avec humilité. Donc, c'est un homme qui meurt à 46 ans, au 16e siècle. Donc, ce n'est pas une vie là qui va s'étendre longtemps. Alors, ce qu'il va faire en peu de temps, eh bien, c'est cela qui va durer. C'est la semence. Le semeur est sorti pour semer. Et la semence, elle doit mourir pour porter du fruit. Elle se désagrège dans la terre de l'humilité et elle va faire en sorte que le grain, si c'est un grain de blé, va produire 100 pour 1. C'est l'histoire de ce saint. Donc, je continue à vous parler de cette église de Saint-Charles Borromée. Elle a été restaurée. Et elle a été restaurée dans la lumière. Parce que nous avons vu la restauration et nous avons vu, ils ont laissé quelques parties très très petites où on voit l'ancien. On voit que c'était extrêmement sombre. Les travaux anciens nous montraient une basilique qui avait été faite, mais je ne sais pas si c'est le temps ou le matériau qui s'est assombri, mais ils ont dû réfléchir en se disant ben, « c'est une église, elle doit respirer un peu la lumière, il y a quand même des ouvertures, il y a des fenêtres, mais l'église devait être extrêmement lourde, à mon avis, parce qu'elle était sombre ». Donc, ils ont fait une restauration lumineuse, ils ont tout refait, et on peut voir la comparaison des deux. Écoutez, c'est ces deux mondes-là. C'est un monde sombre, et on arrive dans un monde de lumière. Alors, on a fait le tour, et tout à coup, nous découvrons quelque chose d'inhabituel dans une église. Vous savez, dans une église, il y a un chemin de croix. Nous connaissons les chemins de croix. Jésus est condamné à mort, Jésus porte sa croix, Jésus crucifié, les chemins de croix. Le chemin de croix, il est là, en bronze, et de façon manifeste. On le voit très 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 bien. Ça, c'est comme à l'intérieur de la nef, avec des colonnes. Mais à l'extérieur de la nef, ces mêmes colonnes nous donnent un chemin de lumière. Et là, c'était vraiment impressionnant et intéressant parce que, d'une part, il y a un élément de nouveauté, mais nous regardons, parce que c'est en bronze, c'est fait de façon moderne par des artistes, c'est même une école d'artistes qui s'inspire d'un artiste, il y a des écoles comme cela, en Italie, peut-être ailleurs aussi. Alors, il y a une école qui a fait 14 stations du chemin de lumière. Alors, on regarde, et ça commence évidemment par la résurrection. C'est très beau, c'est très touchant de voir ces œuvres. Nous retrouvons un petit peu plus loin les deux disciples d'Emmaüs. Et au centre, c'est un chemin, une route triangulaire. Alors, on sait très bien l'expérience des pèlerins d'Emmaüs. Jésus qui vient alors qu'ils sont en train de marcher. et de se raconter de façon triste les événements qui sont survenus à Jérusalem, eh bien Jésus, comme un étranger, va se glisser sur la route et leur montrer le chemin des Écritures que lui, Jésus, accomplit. Alors c'est un chemin de lumière. Un peu plus loin, nous allons voir Jésus d'un côté et Marie-Madeleine. C'est au jardin, c'est au lieu du sépulcre, là où Marie-Madeleine va découvrir le tombeau vide et quelqu'un va l'interpeller, elle croit que c'est le jardinier. Bien, c'est Jésus qui prononce simplement son nom, Marie. Et elle répond « Rabboni ». Elle le reconnaît tout en étant différent. « Ne me touche pas. Je dois monter vers mon Père et votre Père. Va dire à mes frères, vous me verrez en Galilée. »
Voici maintenant les épistolaires. Il s'agit de 17 parchemins de Bernardo di Perugia à son ami Béic dit La Fleur. Vous serez au XIIIe siècle en Italie. Vous aurez compris que ce sont des personnages fictifs que j'ai inventés et dont je suis l'auteur. Fascinant. Prise de son, Yannick Caron. Musique et bruitage, François Couture. « Bien cher Béic, dit La Fleur, comme je vous dois de vous savoir me lire avec tant d'assiduité, je vous en remercie. Entre le moment où je vous écris et celui de me lire, que de lune peut-être. J'ai enfin, et je l'écris sans amertume, rencontré quelqu'un qui a fait grand bien à mon esprit. » Je ne m'y attendais nullement dans ce projet de l'aller-retour dont je suis tributaire depuis ma décision de me rendre à Rome. Il fallait bien y arriver pour revenir, mais ce retour est infiniment plus long que mon séjour à Rome. Peut-être que le Très-Haut mesure lui-même nos capacités. Mais là, j'étais à bout de nerfs de ne rencontrer que misère et bêtise. Que l'on me pardonne ce soupir envers l'humanité. Trop de poussière dans mes narines. Une belle rencontre dont je voudrais conserver jusqu'au définitif retour les impressions. Il s'agit d'un philosophe d'un âge certain. On ne pose pas ces questions. Il avait eu le même désir que le mien. Étrange, lui aussi, mendiant et plus que pénitent, s'était aventuré dans ces dédales du monde. J'ai eu non la chance, mais le trésor d'être écouté. Le temps m'a paru court, mais en réalité, devinez, après avoir entendu mes dires, je l'écoutais à mon tour. Jamais il ne dit mot de lui, ni sur quiconque. Jamais. J'en étais interloqué. Il parla assez peu, révélant ceci. Frère mendiant, il y a dans la vie ce qu'on peut appeler une première éducation. Elle se reçoit par la famille, les domestiques, les gens du village et les autres proches. On apprend à ne pas écraser une pomme, à la ramasser, à la laver, et enfin à la manger si l'œil a bien discerné. Il y a aussi une succession d'éducations qui suivront la trajectoire de la vie de telle ou telle personne. Elle viendra d'un maître, d'un ami du même âge, d'un musicien ou d'un extravagant. Chacun apporte son rire, sa peine, ses rêves et sa destinée. Les éducations se transfusent au gré des saisons, les vraies, celles de nos âmes. C'est alors que le véritable éducateur nous enlève toutes ses peaux pour nous revêtir de son vêtement tissé d'air, d'eau, de feu et de glace. Nous devenons humains, divinisés par le souffle le plus précieux qui soit. Nous devenons respiration. Et nous nous sommes tus. Quelques respirations après, le philosophe eut certaines difficultés à se lever, et je l'aidai de mon mieux. Or, voilà que tous deux, nous sommes tombés sur le dos en riant de toutes nos forces que nous n'avions plus. Il resta sur le sol tout comme moi et ajouta « Respirez maintenant vers le haut. » Et nous avons entonné notre ultime éducation, celle du rire. Cher ami, je sais très bien, je sais que vous riez un instant. Éduquez-moi encore par le rire, le vôtre. Votre cousine à San Damiano doit rire aussi entre les psaumes qu'elle chante et son si beau sourire qui m'enchante. Que dis-je? Je n'ai vu que son regard. Rions encore. Bonne nuit, s'il en est le moment. Priez pour moi. Bernardo di Perugia. C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.